Au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Academy. On retrouve Hélène Renard.
Madame, Monsieur, bonjour. L'histoire ne se déroule pas uniquement sur les champs de bataille ni dans les conflits sociaux. Non, on peut la voir se fomenter dans les bureaux. Et c'est là le sujet de notre mission. Elle se fomente surtout dans les cuisines et sur les tables, les grandes tables des dirigeants ou les tables ordinaires des paysans. Bref, l'histoire, si elle a ses grandes portes, elle a aussi ses petits plats. Les petits plats de l'histoire, tel est le titre de l'ouvrage paru au PUF, Presse universitaire de France, sous la signature d'un historien de la gastronomie, Jean Vito. Bonjour.
Bonjour.
Jean Vito, nos auditeurs vous connaissent bien puisque vous animez la rubrique Histoire et gastronomie sur Canal Academy.
Absolument.
Une rubrique qui est très riche, justement, d'anecdotes historiques. Après avoir publié ce gros dictionnaire du gastronome sur lequel nous avons aussi fait une émission, eh bien, vous venez de publier « Les petits plats de l'histoire ». Ma première question, elle est toute simple. De quand date le mot « gastronomie » ?
Le mot « gastronomie » a été cité une première fois au XVIIe siècle, mais l'inventeur du mot « gastronomie », c'est un nommé Joseph Berchou, qui était un poète de l'Empire et qui est paru en 1802, et qui a écrit un livre qui s'appelle « Le gastronome ou l'homme des champs à table ».
Alors, on a oublié ce Joseph Berchou. À part vous, personne ne le connaît, si ?
Joseph Berchou fait partie des poètes totalement oubliés de la suite de Delille. Déjà qu'on a oublié Delille, alors Berchou.
Alors, pourquoi avez-vous voulu rédiger une histoire événementielle de la gastronomie alors que le dictionnaire du gastronome est déjà un ouvrage très important en volume, j'allais dire, et même en réputation ? Pourquoi en écrire un nouveau ?
Eh bien, c'est-à-dire que le dictionnaire est un ouvrage qui répond à des normes particulières et notamment à une brièveté et une concision qui ne sont pas forcément suffisantes pour développer et analyser un certain nombre d'actes gastronomiques qui ont pu changer l'histoire.
Est-ce que c'est la gastronomie qui change l'histoire ou est-ce que c'est l'histoire qui modifie la gastronomie, la manière d'être à table ?
La gastronomie change l'histoire, ça c'est clair. Il est clair que si Parmentier n'avait pas été prisonnier du roi de Prusse, il n'aurait pas fait la propagande de la pomme de terre. Mais parfois l'histoire change aussi la gastronomie. Et de ce point de vue-là, il y a un certain nombre... C'est parce que l'intendance avait des besoins que le camembert a été choisi pendant la guerre de 14 pour alimenter les poilus, parce que ça se coupait plus facilement et surtout de façon plus égale que le fromage de gruyère, et donc ce qui évitait quelques querelles. Et d'autre part, que les conserves, par exemple, ont été inventées par Appert parce que l'intendance avait des besoins. Et donc, quelque part, je crois que les deux sont intimement liés, mais que vouloir réduire l'histoire à sa version purement économique est sûrement, de ce point de vue-là, une erreur, parce qu'il s'est passé tellement de choses à table que ce n'est probablement pas un hasard.
Alors Jean Vito, voilà ce que je vous propose pour faire découvrir à nos auditeurs votre ouvrage. On ne va pas raconter toute la totalité des anecdotes que vous relatez, car il y en a beaucoup. On va en prendre quelques-unes par chapitre. Le premier chapitre, c'est « Quand la gastronomie modifie le cours de l'histoire ». Donc nous sommes en plein dans le sujet. Vous évoquez l'or et le sac de Rome, Christophe Colomb et les épices, l'appétit de Louis XVI et Varennes. Et puis, il y a le général Boulanger qui préfère sa maîtresse à la marche sur l'Élysée. Racontez-nous ça.
Le général Boulanger a été élu en 1889 par tous les arrondissements de Paris, sauf un. Et donc, il était dans une position absolument dominante, et l'ensemble de ses partisans, qui avaient un œillet rouge à la boutonnière, lui avaient engagé à aller prendre d'assaut l'Élysée, ce qui aurait été fait sans problème puisqu'il n'était pas défendu. Et il a préféré dîner avec sa maîtresse, puis rentrer avec elle. Il faut dire que les rapports de Boulanger à sa maîtresse ont été très terribles parce qu'il finira par se suicider sur sa tombe à Bruxelles quelques années plus tard. Et donc là, c'était une occasion ratée.
Ah voilà, non seulement vous connaissez les secrets gastronomiques, mais aussi les secrets d'alcôve, si je comprends bien. Quelques-uns. Alors, dans le chapitre 2, nous abordons la guerre et la gastronomie. Donc, la gastronomie, évidemment, influe sur le cours des opérations militaires. Il y a les pénuries, il y a les problèmes d'intendance, il y a ceux qui empêchent de bien manger et de bien boire, il y a l'invention de la gastronomie pendant les guerres. Et il y a un chapitre qui m'intrigue, la gastronomie témoigne des égards dus aux adversaires ou de leur humiliation.
Alors j'avais pris deux exemples pour cela. Le premier, c'était Napoléon le Grand, donc Napoléon Ier, dont on a toujours dit que les Anglais l'avaient persécuté à Sainte-Hélène. Or le vin qu'il lui envoyait était à l'époque un des vins les plus renommés et les plus chers du monde, qui était le vin de Constance, qui était produit à Constantia, en Afrique du Sud. Le deuxième exemple, et probablement plus amusant, c'est Napoléon III. Après la défaite de Sedan, il comptait se rendre à l'empereur, enfin, pas encore empereur, au roi de Prusse, Guillaume Ier, mais il ne vit que le chancelier Bismarck, et ensuite, quand il rencontra l'empereur, le cuisinier lui servit une cervelle d'âne à la diplomate.
Une cervelle d'âne
à la diplomate. Alors, il y a deux façons d'interpréter ce phénomène. Soit c'était un acte de défiance, soit au contraire, c'était un acte, j'allais dire, quasiment philanthropique, puisque l'âne, à cette époque, avait la réputation d'être une viande de convalescent. Or, il faut savoir que Napoléon III, à la bataille de Sedan, souffrait le martyr en raison de sa maladie de la pierre, et que donc il est très difficile de savoir si on a voulu l'humilier ou au contraire le traiter comme un malade.
Oui, ça c'est vous, parce que vous êtes très généreux, vous pensez qu'on a voulu lui rendre service, et peut-être parce que vous êtes médecin aussi, donc au service des malades, mais peut-être c'était humiliant de servir de l'âne tout de même.
L'âne a été servi de façon régulière pendant le siège de Paris. Il y avait même un cuisinier qui s'appelait Thomas Génin qui trouvait que cette viande avait un bon goût de noisette.
Mais parce qu'on n'avait rien d'autre à se mettre sous la dent, évidemment. Enfin, l'âne, c'est mieux que le rat. Passons à la table et la politique, chapitre 3 de votre ouvrage. Vous dites que les grandes décisions sont souvent prises au cours d'un banquet, que parfois même on a interdit les banquets, mais qu'il y a eu tout de même un banquet qui reste célèbre, c'est celui de 1900.
Le banquet des mers en 1900 était une idée, au départ proposée par la ville de Paris et ensuite reprise par Waldeck Rousseau, et qui visait à essayer de rétablir une espèce de consensus national après l'affaire Dreyfus et juste avant la séparation de l'Église et de l'État, qui furent quand même de grands séismes. Alors tous les maires de France ont été conviés, il y en a quand même 22 000 et quelques qui sont venus à Paris. Il y avait deux tentes gigantesques sur le Champ de Mars, avec une organisation toute militaire, les estafettes étaient cyclistes, le général de brigade qui commandait l'ensemble circulait en voiture entre les tentes, et il y avait une quantité de vaisselle, de plats, et environ un bon millier de personnel pour assurer le problème. Et alors, ce phénomène a été compliqué parce qu'il y a eu des querelles de préséance.
Ah.
Et la querelle de préséance la plus drôle, c'est que le président de la République avait donc mis à sa droite le doyen des maires. Mais il avait oublié qu'il y avait deux doyennés possibles. Il y avait le doyen en exercice de la fonction de maire et le doyen en âge.
Ah oui.
Et donc, pour calmer le jeu, le président a dû, il avait promis la Légion d'honneur au doyen, et donc il a dû enlever sa croix de la Légion d'honneur et la remettre à l'autre, pour calmer ce problème.
Où va se nicher la vanité humaine tout de même. Tout de même, réussir un banquet de 22 000 personnes, qu'a-t-on mangé? Qu'a-t-on dégusté dans ce banquet?
On a le menu, je suppose. Le menu extrêmement précis. Ils ont servi en fait un menu relativement simple qui a été servi par Potel et Chabot et qui a été servi en 1h30, ce qui est assez impressionnant. Alors le menu associe un filet de bœuf en Bellevue. Alors Bellevue, il faut savoir que c'était le nom des plats concocté par le cuisinier de Pompadour, qui avait un château à Bellevue, un pain de canneton de Rouen, une poularde de Bresse rôtie, une ballotine de faisan Saint-Hubert, une salade Potel, un camembert et des glaces succès condées et des fruits. Les vins associés du Prégnac, du Saint-Julien en carafe, du Haut-Sauterne, du Beaune, du Morgon 1887 et du Champagne Montebello.
Tout ça me paraît très léger. Vous auriez aimé assister à ce banquet?
À mon avis, ça devait être sociologiquement passionnant.
On marque une courte pause avec Jean Vito et on continue sur la gastronomie.
Rencontrer Éric Desmazières, artiste graveur de l'Académie des Beaux-Arts, son œuvre gravée offre des images de cités imaginaires, de bibliothèques babéliennes, d'architecture à la piranèse, de vues de Paris, de vues d'intérieur, d'appartements ou d'ateliers. Téléchargez dès maintenant cette émission en habit vert sur canalacademy.com.
Jean Vito, dans votre ouvrage « Les petits plats de l'histoire », vous abordez un autre chapitre de la gastronomie, c'est ses relations avec l'espionnage. Il paraît que les fraises ramenées du Chili par l'ingénieur du roi fraisier, justement, nous a causé beaucoup de soucis.
Eh bien, ces fraises ont été ramenées par M. Fraisier, qui était ingénieur du roi.
Qui s'écrit avec accent aigu et un Z.
Un Z, oui, mais enfin, l'homonymie est drôle.
Voilà, l'homonymie est évidente.
Et de ce point de vue-là, il a trouvé dans l'île de Chiloé, il faut dire qu'il était là-bas, non pas pour ramener des fraises, mais pour espionner les fortifications des colonies espagnoles de l'Amérique.
Au pied duquel poussaient des fraises, je suppose.
L'île de Chiloé avait une espèce de fraise, qui d'ailleurs était blanche essentiellement, qui était grosse et qui était charnue. Et donc, il a ramené des fraises. Il a essayé de les ramener, de les acclimater. Les premiers essais d'acclimatation n'ont pas été remarquables parce qu'il avait ramené que des pieds mâles qui n'avaient que des étamines et donc qui n'ont pas fructifié. Et alors après, on est quand même parvenu à obtenir ces fraises-là. Et là où l'histoire est drôle, c'est qu'il avait une propriété près de Plougastel. Et de là viennent les fraises de Plougastel qui sont un hybride entre les fraises de Chiloé et les fraises de Virginie. Les vieilles fraises anciennes que l'on ne voit plus étaient en fait des grosses fraises des bois et donc qui ne se prêtaient ni à la conservation ni au transport car très fragiles.
Dans ce chapitre espionnage et gastronomie, vous évoquez bien sûr les dîners de Talleyrand, mais on a une autre émission sur Canal Académie sur ce sujet. Antonin Carême qui aurait pu être l'espion au service de Talleyrand et beaucoup d'autres choses encore. Dans le chapitre suivant, chapitre 5, c'est un chapitre un peu moins gai, c'est « Mourir à table ». Alors on apprend que Caligula faisait des dîners mortels, on ne sait pas si c'est au sens propre ou au sens figuré,
au sens propre,
d'accord, que Claude, l'empereur, fut empoisonné aussi, enfin bref, et on sait aussi que Vatel s'est suicidé, donc tout ça est bien triste. L'assassinat de Jean Jaurès au Café du Croissant, c'est connu, mais qu'est-ce que vous pouvez raconter sur cette anecdote ?
Jean Jaurès, à cette époque-là, c'était donc juste avant la guerre de 14, militait pour une internationale socialiste contre la guerre. Et donc, il avait son quartier général au siège de l'Humanité, mais il fallait bien se sustenter. Et d'autre part, à cette époque-là, les cafés étaient connus pour être la succursale des rédactions. Et donc, il va au Café du Croissant et commence à manger avec son comité de rédaction quand un homme, Raoul Villain, lui décharge 2 balles de revolver dans la tête. Et alors, il faut savoir que Raoul Villain a eu une vie absolument stupéfiante parce qu'il s'était réfugié en Espagne et en 1936, alors qu'il était à Majorque, les Républicains se sont rendus compte de qui il était alors qu'il avait été amnistié et même blanchi de l'assassinat de Jaurès en 1919 par les tribunaux français. Il a donc été assassiné par les Républicains espagnols en 1936.
Comme quoi, il y a une vraie justice.
Oui, ce qui est amusant quand même de penser, c'est que cela s'est passé au Café du Croissant.
Ce café, d'ailleurs, on peut toujours le voir à Paris. Il y a une plaque. Il est donc, si ma mémoire est bonne, rue Montmartre, dans le quartier un peu derrière la Bourse, par là, entre les grands boulevards et la Bourse. Il n'y a pas que l'histoire qui soit modifiée par la gastronomie, si l'on en croit votre chapitre 6, puisque la loi elle-même, donc le domaine juridique, est aussi modifiée. Les lois de Rome, les lois du Moyen-Âge autour du sel et de ce qu'il fallait payer comme impôt avec cela. Et puis, il y a l'ordre du Saint-Esprit dans nos mémoires grâce au cordon bleu des cuisinières.
Alors, l'ordre du Saint-Esprit avait un cordon bleu moiré.
Oui, a toujours d'ailleurs, je crois.
Il n'y a plus d'ordre du Saint-Esprit.
Oui, mais on le voit toujours.
On le voit toujours, et avec une croix à 8 branches sur laquelle pendait une colombe, en fait très proche de la croix huguenote, bien qu'il n'y ait pas de rapport. Et donc, ce cordon bleu, c'était l'ordre de chevalerie français, le plus apprécié. D'ailleurs, le cordon de la jarretière est également bleu en Angleterre. Et donc, on a fini par dire que c'était le cordon bleu récompenser les meilleurs, alors le meilleur théologien dans un monastère. Et au début du 19e siècle, elle s'est passée à la cuisinière. Et on a défini la cuisinière comme étant un merveilleux cordon bleu.
D'où l'expression.
D'où l'expression et d'où les plats qui vont avec, comme l'entrecôte cordon bleu ou des choses comme ça.
Alors, puisqu'on est dans le Saint-Esprit, restons dans la religion, car la religion aussi, elle joue un rôle dans la gastronomie, dans l'évolution de la gastronomie et surtout d'ailleurs dans l'interdiction. Alors, vous partez de l'éponge de vinaigre de la Passion du Christ, on ne soit pas sûr que ce soit très bon, mais enfin, vous dites que ça aurait été plutôt un geste de compassion plutôt qu'un instrument
oui,
de souffrance. Ou
parce
de...
que les légionnaires avaient une ration de vinaigre qu'ils mélangeaient à l'eau pour la boire et pour éviter les effets des eaux polluées, notamment en Orient, ce qui permettait aux légionnaires de ne pas être victimes de la courée des Prussiens.
De
comme
la légionellose, peut-être
oui. Et alors, ce qui est sûr, c'est qu'un légionnaire avait l'habitude de boire une eau vinaigrée, et donc le fait de donner de l'eau vinaigrée au Christ ne doit pas forcément être interprété comme un sévice, mais simplement... Il lui a donné sa boisson
sa
quotidienne.
Boisson, plutôt même comme un geste généreux. C'est la première fois que j'entends cette explication et je trouve qu'elle va sûrement intéresser nos auditeurs. Mais dans ce chapitre-là, il y a un autre paragraphe qui m'interpelle. La religion chrétienne interdit à Suffren d'interrompre ses repas. Pourquoi il mangeait sans arrêt ?
Alors Suffren était un homme doué d'un appétit proverbial, d'un embonpoint non moins remarquable, mais qui était quand même un chef de guerre et un commandant de vaisseau redoutable, puisqu'il avait quand même vaincu à de nombreuses reprises les Anglais pendant la guerre d'Amérique et ensuite en Inde. Et un jour, une délégation des Marathas, qui étaient des redoutables Maharajas du sud de l'Inde, vient le voir, et comme il ne voulait pas s'arrêter de manger, il leur a dit que la religion chrétienne lui interdisait d'interrompre son repas. Et les Marathas sont repartis, et la légende dit qu'ils ont été très impressionnés par le respect que Suffren accordait aux préceptes de sa religion.
Quel menteur ! Bon, enfin, c'est pas grave, on lui pardonne. Vous terminez donc le dernier de vos chapitres, Jean Vitaux, par les plats emblématiques. Donc, les mangeurs de pain, ce sont les Égyptiens et les Français. Et alors, évidemment, il y a des plats de tous les pays. Alors, il y a la paella. Ça ne nous étonne pas que ce soit un plat espagnol.
Oui, mais alors, la paella
a
subi une évolution en fonction du temps. Bon, le riz a été cultivé dans la région de Valence depuis les Arabes, et donc depuis le 7-8e siècle de notre ère. Et on avait l'habitude, dans les poêles qui ont donné le nom à la paella, parce que paella, c'est le nom de la poêle, en fait, de mettre tous les produits locaux, de la mer et pas de la mer d'ailleurs, et d'y mélanger des poivrons et des tomates. Et quand s'est posé le problème, après la guerre civile de 1936, qui avait terriblement appauvri l'Espagne, de développer le tourisme, il a fallu trouver un plat emblématique national. Et à l'initiative du général Franco lui-même, la paella a été choisie, pour plusieurs raisons. Un, le riz n'était pas un produit cher. Deuxièmement, on pouvait y mettre beaucoup de choses. Et troisièmement, et surtout, c'était le plat emblématique du drapeau national, puisque le rouge du poivron et de la tomate signifiait le rouge du drapeau, et le riz safrané, l'or de la bande centrale. Et donc, quelque part, la paella est un des derniers souvenirs vivants du général Franco.
Au moins, on peut lui être reconnaissant, au moins de la paella, parce que c'est tout de même très bon. Alors, Jean Vitaux, je veux rappeler le titre de votre livre, « Les petits plats de l'histoire », c'est paru au PUF, et c'est préfacé par Jean Tullard, membre de l'Académie des sciences morales et politiques, qui est votre complice à l'Académie des gastronomes, non ? C'est une autre académie.
C'est mon complice, et alors là, c'est là que le monde devient étrange, puisque c'est moi qui suis le parrain de Jean Tullard à l'Académie des gastronomes.
Ah voilà, une autre académie qui est très alléchante. Merci beaucoup Jean Vitaux. Je rappelle que vous avez publié aussi le dictionnaire du gastronome qu'on en trouve avec Benoît France et qu'on en trouve l'émission sur Canal Académie et que vous tenez la chronique mensuelle d'histoire de la gastronomie sur Canal Académie. Merci.
Merci.